On reprend la page 26. On
Vaïdaber.
va commencer donc le Vaïdaber. À partir de ce Vaïdaber va démarrer ce qu'on appelle le Seder à Korbanot, c'est-à-dire l'ordre des sacrifices. Pourquoi? Pourquoi on le dit tous les matins? La Gemara nous dit dans le traité de Nachot, elle explique le verset qui est écrit Zot Torat Achatat. Il y a un verset qui dit voici la loi du Chatat. Et sur ça, les Chachamim ont posé la question, on se dit pourquoi c'est écrit voici la Torah du Chatat? Quel rapport entre la Torah et le sacrifice? Bien sûr que les lois du sacrifice sont partie de la Torah. Et de là, les Chachamim ont appris que Zot Torah Tachatat, ça veut dire que tout celui qui étudie les lois du Chatat dans la Torah, dans un moment où on peut pas l'offrir, c'est comme si qu'il avait offert le sacrifice. C'est pour ça qu'on a écrit Zot Torat Achatat. D'accord? Et donc, ça c'est bien sûr, aujourd'hui, c'est d'actualité aujourd'hui que le Beth Amigdash est détruit. Donc aujourd'hui, c'est très important quand on a le temps de lire. Donc on a déjà dit la Akeda, c'est important. Les Korbanot, c'est aussi important. Après, on verra le Ezeum et Koman aussi. Et après seulement, on passe à Odu. Si on peut lire tout ça, au moins, on peut essayer de faire ça au moins le Shabbat, ça serait bien. Pourquoi? Puisque c'est très important, comme on dit ici, quand on dit ce psukim-là, c'est comme si qu'on a offert les sacrifices. D'accord? Dans le Mishnah Moura, il parle beaucoup de... Le Mishnah Moura, il ramène le Magan Abraham qui dit qu'à tel point c'est important de dire le Seder à Korbanot, que lui, il dit qu'il y en a qui pensent que toute cette paracha des sacrifices, c'est-à-dire à partir de Vaïdaber ici jusqu'à Ezeum et Koman, il faut le dire debout. Parce que quand on offrait le sacrifice, on devait le faire debout. Il y a un avis dans Shulchan Aruch qui dit qu'on est obligé de le faire debout. Pour vous montrer à quel point on est vraiment comme si on était en train d'offrir un sacrifice. On a un passage, page 26. Ceci dit, il y a beaucoup qui disent que bon, on est, dans les filles, on n'est pas obligé de se tenir debout pendant les ce qu'on appelle donc les sacrifices. Mais c'est important, c'est une paracha qui est quand même importante. Alors dans le cadre des Korbanot, on aura également les Ketoret. Alors j'ai acheté un livre à Anvers qui explique tous les kétorettes en long, en large. Et même à la fin, il y a des photos avec les noms en latin de chaque plante. Et M. Benichou, Baruch HaShem, a fait un boulot vraiment digne de pharmacien. Bezrat HaShem, dans quelques... la semaine prochaine ou la semaine d'après, on y arrivera. J'ai besoin encore de quelques jours pour... Ah oui, il m'a fait un boulot.
Je me suis retrouvé à la fac. Ah, c'est même pas ça, c'est les plantes.
Je vais donner le nom en latin.
Les écoles,
et il m'a ressorti les...
Ah, c'est la ligne, ouais. À l'homme de Ben Yehuda.
Donc si tu veux, on y arrivera. Alors, donc on commence la paracha des Ketoret.
Fishman, je crois, Ben Yehuda.
Vous savez, page 26. Page 26, donc c'est la paracha, de Vaïdaber. Attendez, je me suis trompé. Ah, vous l'avez pas, la paracha de Savetaram de Banal est mort? Bon, on va commencer ici alors. Parce que chez ici, moi ici, ils m'ont rajouté une autre paracha encore dans Pintras. Qui parle de... Vous l'avez pas ça va être Aaron, Zot Ben Alemor, Zot Torah Taola? Non, il n'y a pas Zot Torah Taola?
Non,
ça va être Ben Israël. D'accord. Bon, alors qu'on va commencer là-bas. Donc, Vaïdaber Hachem, chez le mort de Ben Israël, c'est la paracha du Tamid. Je vous explique, en fait, apparemment, chez les Ashkenazis, mais je sais pas, chez moi aussi, c'est bizarre. On rajoute ça aussi. On rajoute la paracha de Troumat Adéchen. C'est-à-dire que le matin, avant d'offrir les sacrifices, on devait d'abord prélever la cendre qu'il y avait sur l'autel.
Vous avez un livre
Ashkenaz? Non, ça, c'est un livre Sfar, ça, mais bon. Mon livre, le Teilat HaShem, il suit c'est une version du Harizal, donc c'est comme le Patach Eliyahu, c'est une variante du Harizal. C'est intéressant que... Bon, je sais pas. Il n'y a pas dans les chemins de terre non plus?
C'est celui-là? C'est ce
marche. Ouais, moi j'ai ça, ouais.
Chassière, en général, est très complet.
Ah ouais. Qu'est-ce qu'il dit, les chemins de terre? Une seconde, hein, je regarde ce qu'il dit.
J'ai travaillé de deux dire avec, et c'est tellement de choses.
Ça va être... Non, il le met pas non plus.
Les donc, commentaires.
Donc, c'est pas le minage.
Ouais, je sais pas, il est commentaire.
Non, c'est pas seulement les commentaires, c'est la précision. Donc, on va commencer donc directement à la paracha du Tamid. La paracha du sacrifice qu'on devait offrir le matin et l'après-midi. Vaïdaber Hachem à Moshe les morts. Donc, Dieu a dit à Moshe en disant ça va être béni Israël, ordonne aux enfants d'Israël, va à Martha les M et tu leur diras. Alors, ça veut dire quoi, ordonne et tu leur diras? Rachid explique là-bas. Ça veut dire que, et c'est expliqué aussi dans le commentaire du Yarabet, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu ne veut pas seulement qu'on ordonne aux Bnei Israël de l'époque dans le désert, mais il veut s'assurer que le message soit transmis au fil des générations. Donc c'est ça le Tzavet Bnei Israël, Ve'amarta Aleem. Ordonne aux enfants d'Israël, et tu leur diras, ça veut dire quoi? Tu leur diras afin qu'ils le transmettent au fil des générations. Qu'est-ce que tu leur diras? Et Korbani, mon sacrifice, Alors Rashi explique, quand on parle du sacrifice, de quoi on parle? Le sacrifice, c'est quoi, ici? On parle du fait qu'on devait verser le sang, d'accord, sur l'autel. Zrikat Adam. Ça, Rashi explique. Donc, Ed Korbani, l'Achmi, le sacrifice est considéré comme un pain, comme une nourriture.
D'accord? L'Achmi, ça veut dire pain. Hein.
L'Achmi, c'est mon pain.
Petit pain.
Mon petit pain.
Ah, moi, j'en
ma nourriture. L'Eishai, donc, regardez. Ed Korbani, mon sacrifice, c'est-à-dire le sang qu'on va verser. L'Achmi, mon pain. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'Aviachol, on va expliquer, donc on donne manger à Kadosh Baruch Hu. L'Eishai, pour mes feux, c'est-à-dire qu'on le posait sur le feu de l'autel. Reach Nihori, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Pourquoi ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu? D'accord. Alors, la Barashi explique, il dit ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu parce que Kadosh Baruch Hu a demandé et on a fait ce qu'il a demandé. Dans les mots, c'est chez Amarti, Venasser et Tonir, Rachid dit. Dieu a un plaisir qu'il a dit et qu'on a fait ce qu'il a demandé. Pas une question de bonne odeur, etc. Bonne odeur, c'est encore autre chose. Là, Rachid explique, il dit c'est quoi Reach Nihori? Rachid, il a dit Nachad Roach Lefanaï, chez Amarti, Venasser et Tonir, qu'il a un plaisir, qu'il a demandé, que sa volonté a été accompli.
Dieu traduit comme une odeur agréable.
Oui, bon, c'est...
Mais Dieu, il a pas un...
Alors, Reach Nihori, Reach Nihori, ici, il faut comprendre comme Nachad Roach. Nachad Roach, ça veut dire un plaisir. Une appréciation, il apprécie. Et ça, vous voyez, ça, on le retrouve dans la tefila. Ce concept que Dieu nous a demandé de faire la tefila, on fait la tefila, et ce concept-là est toujours d'actualité. Donc, Reach Nihori, donc Dieu dit, donc c'est un peu crypté, hein, ce verset. Donc, le fait que vous devez verser le sang, c'est comme mon pain sur l'autel, et que ça me fait plaisir. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Tishmeru, attention. Ça veut dire quoi, attention? Ça veut dire, je vous demande de faire bien attention. Et que, il demande, c'est-à-dire que la responsabilité du Korban Tamid est sur le Kohen, et sur le Lévi, et sur Israël, Rashi dit. C'est-à-dire que tout le monde doit s'assurer que c'est fait. Même s'il y a une seule personne qui va le faire, mais c'est la responsabilité de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde doit s'assurer que le Korban a été fait. C'est pour ça qu'on lui dit Tishmeru. L'ishmor en hébreu, c'est-à-dire surveiller, faites attention que c'est fait. Et c'est pas si c'est pas fait, tu dis oui, c'est pas ma faute, c'est la faute du Kohen, c'est la faute d'un tel. Non, c'est la responsabilité de tout le Ham Israël. On me dit Malgabav, comme Rachid dit. On me dit Malgabav, ça veut dire c'est comme en français, on dit on est sur le dos de quelqu'un. D'accord? Alors il demande à tout le peuple juif d'être sur le dos de ceux qui vont le faire pour s'assurer que c'est fait.
Puisque sur le dos des Kohanim, en fait.
Sur le dos des Kohanim. Puisque c'est la responsabilité, parce que c'est un sacrifice collectif, donc c'est une responsabilité collective. Alors, donc faire attention à quoi? Tout d'abord faire attention au fait qu'on va l'offrir, et pas seulement ça. Lea Krivli, Bemorado. Il faut faire attention au fait qu'il faut l'offrir constamment, en son temps. Alors c'est quoi en son temps? En son temps, ça veut dire le matin, l'après-midi. Et comme Rachid explique là-bas, il dit que pourquoi on dit Bemorado en son temps, ça veut dire que de là, la Gemara a appris que même si c'est Shabbat, on doit offrir ce sacrifice. Normalement, Shabbat, ça doit repousser les sacrifices. Donc, même si c'est Shabbat, on offre le sacrifice du Tamid, et même si tout le peuple juif est impur. Tout le peuple juif, imaginez-vous une situation dans laquelle tout le peuple juif est impur, même le Kohanim. D'accord? Est-ce qu'on peut offrir le sacrifice du Tamid?
Oui.
C'est là le verset qui te dit, Bemoado, en son temps. Ben, bien sûr, en son temps, tu m'as donné le temps. Après, il dira, un le matin, un le soir. Bien sûr que c'est un le matin, un le soir, c'est évident. C'est quoi, pourquoi t'as besoin de me dire en son temps? En son temps, c'est pour te dire, quoi qu'il arrive, tu le fasses en son temps. Même si c'est Shabbat, même si on est impur, toujours. Ça, c'est l'importance du Korban Tamid.
Même impur.
Même si tout le peuple juif est impur de l'impureté du mort. On fait le sacrifice. C'est un sacrifice qui repousse tout. Ouais, c'est extraordinaire quand même, c'est pas rien. Ve'amarta lahem. Là maintenant, Dieu dit à Moshe, et tu leur diras. À qui tu leur diras? Rashi explique, il dit, c'est là Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de s'adresser au Bet Din. Donc c'est une injonction qui s'adresse au Bet Din. Tu leur diras.
Comment il peut savoir ça, Rashi?
Rachid, c'est Rachid. Parce que vous allez voir dans la suite, avec la question on va comprendre. Zéhaïché, Asher Takrivou Lachem. Voici le sacrifice que vous devrez offrir à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui ne concerne pas le Ham Israël, le peuple. Eux, ils peuvent bien s'assurer, ils peuvent poser la question, peuvent dire, est-ce que le sacrifice a été fait? Ça, ils peuvent demander. Mais maintenant que tout le peuple se mette à apprendre le sacrifice, hommes, femmes et enfants, Cohen, Lévi, Israël, ça paraît compliqué. Rachid dit que c'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle. Rachid dit, Ve'amarta Lahem, là on s'adresse au Bet Din. Là, on s'adresse au Bet Din, on demande au Bet Din de s'assurer que Zéhaïché Asher Takrivou Lachem, ça veut dire voici le sacrifice qu'on devra choisir. Quel sacrifice on devra choisir? Kvasim Beneshana Temimim. Donc, Kvasim, c'est un agneau, Beneshana, âgé de 1 an, Temimim, Tamim en hébreu, ça veut dire quoi? Tamim, ça veut dire intègre, ça veut dire parfait, sans défaut. Shnaim layom, rola tamid. Donc on devra en offrir deux par jour. Rola tamid, d'accord? Ça veut dire, c'est un sacrifice qui devrait être offert de manière perpétuelle. Toujours. Il n'y a pas, comme on l'explique. En permanence. Il continue, d'accord? Permanence, alors, explique Rachid, ça veut dire quoi en permanence? Permanence, ça veut dire sans coupure de jour. Parce qu'on aurait pu penser que, par exemple, tu vas me dire, on l'offre le dimanche, le mardi, le jeudi, d'accord? Et le Shabbat, mais c'est comme on le fait comme ça, chaque semaine comme ça, donc c'est en son temps.
Rotation.
D'accord? Il y a une rotation, on aurait pu penser. Je te dis non. Tamid. Tamid, Rachid dit, ça veut dire que sans aucune coupure, tous les jours, sans coupure, toujours, on doit offrir le sacrifice. Donc on a dit qu'on en avait deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux? Et à kevesecha ta tseva boker. Le premier agneau, tu devras offrir le matin. Et à kevesecheni. Et le deuxième agneau, tarasé, tu devras préparer. D'accord? Donc, littéralement, il dit, tu devras faire. D'accord? Tu devras le faire. Parce qu'on parle de faire un sacrifice. Sacrifice, donc tu devras l'offrir. Ben Arbaïm, l'après-midi. Alors, c'est quoi l'après-midi? Vous avez remarqué ici, il appelle ça Ben Arbaïm l'après-midi, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de 6 heures. Alors vous savez, on prend la journée, on la découpe en 12. On prend la journée, c'est-à-dire depuis le matin jusqu'au soir, on la découpe en 12. Par exemple, aujourd'hui, à quelle heure il se lève le matin? 4 heures, je crois? 4h30, quelque chose comme ça?
Ouais.
Hein? 4h30? Bon, donc vous prenez 4h30, il se couche à quelle heure?
21h.
Il se couche
23h.
22h. Non, mais d'accord, mais ça dépend si on prend le coucher du soleil ou la tombée de la nuit.
22.
Bon, disons, on prend le coucher du soleil, 22, donc vous prenez le temps qui est entre les deux, vous le coupez en 12. Et donc, Chatzot aujourd'hui, c'est à peu près 14h, environ, d'accord? À partir de Chatzot, on peut offrir le sacrifice du Mincha. Alors, on verra que, alors c'est pas exactement à Chatzot, c'est un petit peu après Chatzot. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça Ben Arbaïm. C'est quoi Ben Arbaïm? Ben Arbaïm, dans le mot Arbaïm, on a le mot Erev. Erev en hébreu, ça veut dire le soir. Ça veut dire à partir du moment où le soleil commence à se coucher. Quand le soleil est à midi, on voit pas qu'il se couche. Donc il faut attendre qu'on voit que le soleil est déjà en train de se coucher. À partir de quel moment on voit que le soleil est en train de se coucher? C'est à partir de midi et demi. Midi et demi, donc ça veut dire, rappelez-vous, midi et demi, c'est 6h30, quoi. 6h30 depuis 6h30 zmanit depuis le début de la journée. Donc aujourd'hui, ça ferait l'équivalent de 14h30, quelque chose comme ça. D'accord? Donc c'est là qu'on peut faire Mincha, pourquoi? Puisque c'est là qu'on voit que le soleil est en train de se coucher. C'est ça Ben Arbaïm. Ben Arbaïm, ça veut dire quand le soleil est déjà en train d'aller vers Erev, vers le soir, il est déjà en train de se coucher.
22h moins 4h du matin, ça fait 18. Et comment on arrive à 14?
18, ça, je vais vous dire, hein, si vous voulez, le Zmanim.
Attendez,
je vais vous dire le Zmanim exact. La vérité, moi je fais pas Mincha à cette heure-ci, je fais plus tard. Ah voilà, regardez. Chatzot ouais. Aujourd'hui, à Paris, c'est à 13h50.
C'est
13h50. Alors, c'est exactement 13h50, et Mincha Gdola, on peut faire Mincha à partir de 14h30. D'accord? Pourquoi 14h30? Je vais vous expliquer, parce qu'à partir de 14h30, si vous levez les yeux à 14h30, vous verrez que là, on va voir que le soleil n'est déjà plus au milieu, il est déjà en train de se diriger vers le... Il est déjà en train de se coucher. Il a commencé déjà à se coucher. C'est pour ça qu'on appelle ça Ben Arbaïm. Donc le premier, le matin. Et le deuxième, Ben Arbaïm, on a dit, ça veut dire l'après-midi, dès que le soleil commence à se coucher. D'accord? C'est Rachid qui explique comme ça. Va Asiri Taefa, ainsi qu'il faudra rajouter à ça. Donc Asiri Taefa, donc c'est le dixième de la mesure du Efa. Alors Rachid dit que c'est l'équivalent de... Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 32, alors je sais pas comment ça fait en grammes, 32 bétines, donc 32 œufs et un cinquième d'un œuf. Je sais pas comment ça fait, ça dépend quel bêta il compte. Parce qu'il y a plusieurs manières de compter le bêta.
Il y a les œufs d'autruche.
Non, il y a des œufs qu'on considère midrabanan, des œufs qu'on considère midoraita. Bon, c'est une certaine mesure de faire
un
œuf.
Un moins de 2
kilos. Un FA, c'est 20 kilos.
Un FA?
C'est 20 kilos.
Le dixième d'un FA, c'est l'équivalent de 43 œufs. 43 œufs. Donc un œuf, ça dépend. C'est entre 50 et 60 grammes. Ça dépend des avis. D'accord. Ouais. C'est entre 50, mais ça dépend parce qu'il y en a qui rajoutent un peu plus quand c'est Minatora. Il y en a qui disent plus que Minatora. Ça fait combien? C'est 2 kilos.
Ouais, voilà.
Donc on y est. Donc Asiri Taefa, solette, donc de farine. Alors c'est pas seulement de la farine, solette, c'est la fine fleur de farine.
Blanche.
Les mincha, donc pour en tant qu'offrande pour un Kadosh Baruch Hu, qui venait en même temps que le tamid, que sacrifice du tamid. Beloula, donc cette farine-là va être mélangée. Bechemen, katit, revinit, aïn. Donc avec de l'huile, d'olive, d'accord, qui a été concassée, c'est-à-dire de l'huile vraiment de première pression. Revinit, aïn, ça veut dire, là on devait prendre une mesure de revinit, aïn, un quart de hin. Alors un quart de hin, c'est la mesure de... Un quart de hin, c'est trois logs.
Et trois logs.
Et attendez, j'ai oublié, combien c'est un log. Combien c'est un log, papa? J'ai oublié combien c'est un log. Un log.
C'est un gallon.
C'est pas un log, hein.
Non, c'est une mesure de...
C'est une mesure d'époque.
Non, il y a une mesure... J'ai oublié.
Je vais
pas vous dire de bêtises, j'ai oublié.
Bon, enfin, allez, 1 millilitre d'huile, je pense que
c'est... Non, je vais pas vous dire de bêtises, j'ai oublié. Donc, revitain.
Bon, attends, il faisait des petits gâteaux avec ou il balance.
Attendez, maintenant, pour l'instant, on arrête. En la tamid. Donc, c'est un sacrifice qui est perpétuel. À Asuya Be'er Sinai. Le même sacrifice qu'on a offert au Mont Sinai. Quand au Mont Sinai? D'accord? Quand on a offert sacrifice au Mont Sinai? Rachid explique, c'est le sacrifice qu'on a offert au Mont Sinai dans les sept jours, pas d'inauguration, les sept jours de Milouim après qu'on a reçu la Torah. C'est qu'après qu'on a reçu la Torah, on était au Mont Sinai pendant 7 jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit Patachanoun jusqu'au 12 Sivan. Pour se rappeler de cette fête qu'il y avait donc face au Mont Sinai. Et qu'est-ce qu'on doit faire comme sacrifice pendant ces jours? Le même sacrifice, Tamid. Ça, Rachid explique.
Pour un aiguille, il y avait des logis aussi.
C'est un.
C'est un.
Je vais pas te dire. Si vous voulez, après le cours, je vérifie sur internet, je vous dirai, mais là, je sais pas, j'ai un trou de mémoire, je sais pas. Donc,
Et en plus, Fredonis, il te dit c'était ça, et l'autre, il te dit c'était ça.
Si je me rappelle bien, c'était autour d'un litre. Un log, si je me rappelle bien.
Trois logis, c'est un litre. Je crois que c'est trempé dans le. Pour le pâte de bébé.
Je sais pas, bon, il faut que je vois. Ah, si tu te rappelles. Donc, les Be'er Sinai, les Re'er Nichoar, Ishe Lachem. Donc, encore une fois, c'est le même qu'on a offert au Mont Sinai. Et donc, qui a fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, Venisco. Donc, on a dit qu'il y avait un sacrifice. On a dit à part ça qu'on devait rajouter avec ça, un style de la farine qui est mélangée avec de l'huile. On n'a pas dit ce qu'on en fait encore. Venisco revitain. Alors, on va également rajouter dessus, avec ce sacrifice, on va rajouter du vin. Nissour en hébreu, ça veut dire du vin. Toujours quand il est nissour, c'est du vin. Donc Venisco revitain. Là, pour le Nesser, on va amener un revitain, ça veut dire un quart de in. Attendez, puisque je suis ici, je veux voir est-ce qu'ici il me dit pas la mesure.
Autant donc que l'huile d'olive dans la farine.
Est-ce qu'ici il me dit pas? Non. Je dis pas comment ça fait un litre. Bon, je vous dirai, Blinéder. Il faut que je vois, je sais pas. Bokassov. Donc, Venisco Revitain. Venisco Revitain, la Keves Aechad. Bakodesh Aser Neser Shechar Lachem. Alors, qu'est-ce qu'on devait prendre comme vin? D'abord, on devait prendre cette mesure de vin Revitain. Donc, on verra combien ça fait. Bon, en tout cas, c'est entre 1,5 et 3. Hein, c'est pas plus que ça. Donc, on devait prendre cette mesure. Par la keves aechad, ça veut dire par agneau, donc un le matin, un l'après-midi. Et, bakodesh aser neser shechar lachem, donc on devait offrir ça en tant que pour un kadosh baruch hu, mais quel vin on devait prendre? Neser shechar. Dans shechar, on a le mot shikor. Shikor en hébreu qui veut dire?
Sous.
Ça veut dire qu'on devait prendre du vin
fort.
Du vin fort. D'accord? Pas du jus de raisin. Le jus de raisin, on l'appelle aussi yain migito. Du vin qui vient de sortir du pressoir. Il dit que c'est un vin qui n'est pas enivrant. Donc il faut prendre shechar, du vin qui est enivrant.
Du raisin, c'est pas du vin en fait.
Oui. Ve'et akeves sheni, ta'ase banarbaim. Alors tout ça c'est le matin. Le matin il y avait un petit rituel le matin. Hein. On avait le vin, la farine, l'huile, le sacrifice, on avait pas mal de choses. Maintenant ça c'est le premier.
Tout ça était préparé par les kohanim.
Bien sûr.
Le matin, ils
étaient. Tout est préparé. Non. Ça c'est chicor.
On dit le noir en français.
Tout de suite, au black. Tout de suite.
Non, c'était un vin noir, je sais pas.
Non, chicor. Chahor, c'est avec un chet. Là, c'est avec un chaf. Ve'et akeves sheni, ta'ase ben arbaim. Et le deuxième agneau, tu feras ben arbaim. Rappelez-vous, ça veut dire quoi? Ben Arbaim, l'après-midi. D'accord ? L'après-midi, ça veut dire à partir du moment dans lequel le soleil est en train de se coucher. Alors c'est intéressant parce qu'en hébreu moderne, comment on dit l'après-midi ?
Tsahoraim.
Tsahoraim. C'est quoi Tsahoraim ? C'est quoi Tsoar en hébreu ?
Une petite ville à l'époque. Hein ?
Non, c'est avec Araim, ça. C'est quoi ? Ah, mais c'est Benichou, l'Israélien. Alors, c'est quoi Tsoar ? Tsoar, c'est la lumière.
D'accord.
Alors, attendez. Donc il dit, il y a Baboker et Batsaoraim. Et en vérité, on devrait dire Acharei Tsaoraim. Acharei Tsaoraim. Parce que c'est quoi Tsoar ? Tsoar, c'est le moment dans lequel le soleil tape le plus fort. À quelle heure le soleil tape le plus fort ?
Midi.
À midi. Donc Acharei Tsaoraim, après la forte lumière, c'est quand ? C'est l'après-midi. En hébreu moderne, ils disent autrement. Intéressant. Bon.
Non, ils disent Acharei Tsaoraim.
Oui, oui. Ouais, ils disent Acharei Tsaoraim. Mais dans la Torah, on dit Ben Arbaim.
D'accord.
Donc, le deuxième tu feras l'après-midi. J'aurais pu penser que l'après-midi, tu fais pas toutes les libations qu'on a expliquées qu'on fait le matin. Je te dis non. Fais pas cette erreur. Kemincha taboker, tu referas la même offrande que le matin. Uchnisko est la même libation. D'accord? Donc tu feras, et pareil, tu le mettras sur le feu pour
faire quelque chose.
Voilà, le même rituel.
On sait tout. Alors, pourquoi c'est ça, hein? Pourquoi c'est ça qui réjouit Hachem?
Ah, ça c'est un autre sujet, ça, je suis pas dedans, attends. C'est un autre sujet. On arrivera au Ketoret, vous allez voir. Quand on arrivera au Ketoret, on verra Bezrat Hachem, et Kedosh Baruch Hu, au travers des Ketoret. Le Zohar, il explique à propos des sacrifices et des Ketoret, il dit que à Kadosh Baruch Hu, au travers des sacrifices, pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé, vous avez remarqué que Kadosh Baruch Hu, dans les sacrifices, il nous demande d'offrir pratiquement un peu de tout. Donc on a du végétal, de l'animal, un peu de tout, même des plantes, on verra dans les Ketoret, on a de tout. Pourquoi ? Parce que c'est expliqué dans le Zohar, que lorsqu'on offrait un sacrifice au Beth Amigdash, un agneau par exemple, c'est pas seulement cet agneau qui montait chez Kadosh Baruch Hu, c'est tous les agneaux qui avaient une certaine élévation. Donc il y a un calcul de la Kadosh Baruch Hu derrière tout ça. Donc, on en parlera un peu plus de Beth Hashem. Alors, Veshachat Oto, Alier Hamizbeach. Alors ça c'est un deuxième verset.
Il n'est pas là. Il est après Anabokhoar.
Vous devez l'avoir, c'est sûr que vous devez l'avoir.
Non, on n'a pas là. Alors, attends, Anabokhoar.
Et ce verset, il est extraordinaire. Alors, parce qu'il nous offre les portes du Olamada.
Voilà. Venemar Vesharat Oto. Vous l'avez à page 32. C'est obligé que vous l'avez. Je vous dis pourquoi c'est obligé que vous l'avez. Parce que le Beth Yosef, il dit que c'est important, c'est très important de dire après les sacrifices, ce pasouk de Vesharat Oto. Pourquoi? Puisque, Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans le Midrash, la chose suivante, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit que je témoigne, ciel et terre, que ce soit un non-juif, que ce soit un juif, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un esclave, que ce soit une servante, je témoigne que s'il dit ce verset de Vesharat Oto, je me souviendrai de la Akedat Yitzhak en leur faveur.
Et c'est pour ça qu'ils le mettent aussi.
D'accord ? Ouais.
Ils le mettent aussi après la Akedat Yitzhak.
Très bien.
Deux fois en lit.
Et ça, c'est pour ça que le Beth Yosef, il dit que c'est très important, d'accord, de dire ce verset-là de Vesharat Oto. Que quand on dit ça, Akadosh Baruch Hu se rappelle de la Akedat Yitzhak.
Juste après,
en petit. Le Charat Auto.
Il faut lire ça alors.
Voilà. Ah oui. Au moins une fois. Voilà, au moins une fois.
Je crois qu'il fallait le lire.
Donc on va traduire. Qu'est-ce qui est écrit dans ce fameux verset,
hein? Ça, il faut le dire quand tu lis la Kedah. Tu lis un script. Avant. Ah, je crois qu'il fallait le lire.
Alors, qu'est-ce qui a été écrit en petit? Veshachat Oto al Yerech Amizbeach. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Veshachat Oto. Donc, il devra faire la shrita. De quel sacrifice on parle ici? On parle même plus du korban tamid, on parle du korban ola. Veshachat Oto, il pourra faire la shrita. Qui pourra faire la shrita? C'est même pas le Kohen. Pour faire la shrita, même un zar, même un simple juif, il peut faire la shrita. Y a pas de problème. Pour préparer le sacrifice, il faut un Kohen. Mais pour faire la shrita, on pouvait demander même à quelqu'un, même à un zar. C'est pour ça qu'il dit Veshachat, il le fera. Juste avant, il disait dans le verset, le Kohen. Et là, tout d'un coup, il dit, et il le fera. Enfin, il, mais attends, qui il? Veshachat, il le fera, c'est-à-dire même un zar, Rachid, là-bas, même une personne qui n'est pas Kohen.
Ah, pour la Kashrout aussi, c'est pareil, c'est valable ça?
Pour.
Quelqu'un, un arabe, un musulman qui ferait.
Non, là on parle d'un juif. Un juif, mais qui n'est pas Kohen.
D'accord.
Veshachat Oto, al Yerech HaMizbeach. Alors, al Yerech HaMizbeach, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le côté du Mizbeach. C'est quoi Yerech en hébreu? Yerech en hébreu, c'est quoi? Si on voulait mettre ça. C'est quoi Yerech? Yerech, c'est une côte. C'est le, donc, Yerech HaMizbeach, donc la côte du Mizbeach, c'est quoi?
Ça veut dire sur le côté du Mizbeach.
Et c'est poétique un petit peu comme ça. Bon. Alors, Alier et Hamidbéar, Tsafona, Lipné Hachem. De quel côté, donc de quel côté du Midbéar? Le côté nord. Prends le côté nord, d'accord.
C'est ça que tu m'as
dit. Prends le côté nord. Lipné Hachem, explique Maïmonide, il dit parce que c'est là-bas que... Alors, ça c'est intéressant, c'est-à-dire on mettait...
Il y a 2-3 mois.
Ça. Écoutez bien. C'est-à-dire on mettait le sacrifice du côté nord du Midbéar, mais on dirigeait sa tête vers l'ouest. Pourquoi l'ouest? Parce que ça, on dit que c'est à l'ouest que la Shrina se trouve. À l'ouest.
Bon.
Ouais, à l'ouest. Bah oui, parce que regardez, l'entrée du Beth Amikdash était où? L'entrée du Beth Amikdash, voilà, c'est une montagne, l'entrée du Beth Amikdash est où? Et à l'est. D'accord? La Shrina se trouve à l'ouest. Maharav, parce qu'on avait parlé il y a quelques semaines. Donc Maharav, à l'ouest. Donc, c'est intéressant parce que là, le sacrifice, on le mettait du côté nord. Et le côté nord et la tête du sacrifice, on le dirigeait vers où? On le dirigeait vers la Shrina. Le nord, ça représente quoi dans la Torah?
L'ennemi.
Le mal. C'est écrit Mitzafon Tipatahara, du mal. D'accord?
Le nord, c'est le mal.
Oui, le nord, ça représente le mal.
On est à l'ouest.
Et qu'est-ce qu'on prend? Et qu'est-ce qu'on fait avec ce mal? On dirige la tête du mal vers où on la dirige? Ouais. Vers la Shrina. Il y a beaucoup de symboles en tout ça. Vezarkub Naharon Akoanim, et Damo à la Mizbar Saviv, et donc les enfants de Aaron, les Kohanim, et là ça veut dire pourquoi on dit les enfants de Aaron, parce que on peut être enfant de Aaron et pas Kohen. À cette époque-là, on pouvait être enfant de Aaron et pas Kohen, parce que c'est seulement à partir de la parasha de Pinchas que Dieu a décrété que la Kehuna se transmet automatiquement. Mais avant, c'était pas comme ça. C'est ça la bracha que Pinchas a reçue. Il a dit dorénavant, celui qui naît dans la famille devient Kohen. Les garçons deviennent Kohen. Mais avant, il fallait être nommé Kohen. Il fallait naître de la famille d'abord de Kohanim. Il fallait être nommé Kohen. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, on peut avoir une fille Kohen qui se marie avec un Israël. Et donc on peut faire partie de la descendance d'un Kohen sans être Kohen. C'est pour ça qu'il dit Bnei Aaron ha Kohanim.
C'est pour ça d'ailleurs ou pas pour tracer après que... C'est pas qu'il y
ait
Korach avant?
Non, rien d'abord. Non, c'est une bracha que Pinchas a reçue pour son zèle. Que Dieu a dit, comme tu as fait ça, dorénavant, tous tes enfants à partir de toi seront Kohen par affiliation.
Les Kohanim qu'on a eu, ce sont des bnés...
C'est des Kohanim par affiliation. Et c'est nouveau, ça, par affiliation, c'est nouveau. Avant, c'était Dieu qui nous dit, bon, bah alors ton fils sera Kohen. Là, à partir de Pinchas, c'est le sroute qu'il a eu Pinchas, c'est qu'à partir de lui, c'est par affiliation. Ça, c'est un grand mérite. Alors, Vezarkub Naharon à Kohanim. Oui.
Étant donné que c'est les rabbinim ont décrété que c'était la mère qui transmettait le judaïsme,
oui.
Ça veut dire qu'il y a une aberration qu'un Kohen aujourd'hui, fils d'une femme non juive, soit Kohen aujourd'hui.
Non. Ah non, non, non.
Et il est transmis par son père.
Non. Ça peut être transmis que s'il est juif. Ah oui, c'est normal. C'est un statut particulier, mais il faut d'abord être juif. Non, c'est pas bon.
Et même, c'est-à-dire, je ne suis pas un mariage de Trudy, donc il faut être Cohen.
Moumar.
Voilà. Alors.
Même converti.
Ah oui, même converti. C'est d'origine.
Ouais. Ah ouais.
C'est comme l'histoire du converti qui avait dit à Shama, il a dit je vais me convertir à condition que je devienne Cohen. Shama, il a dit non. Il a dit non. Et il a dit oui. Alors comment il a fait? Et c'est après parce qu'il a compris que quand il allait étudier la Torah plus tard, il allait comprendre que Cohen c'est un sens particulier.
Ah.
Il a pris des risques. Parce qu'il aurait pu lui décoller une droite. Je me dis.
Alors question, le fils d'un Cohen marié qui était marié qui convertit, est-ce que lui.
Le fils
d'un Cohen,
oui.
Qui était marié qui convertit. Est-ce que lui, quand il se marie avec une juive, il peut se.
Attendez, marié qui convertit, mais l'enfant il est né quand? Après la conversion, après ça, ça y est.
Il devient Cohen.
Ça y est. Une fois qu'à la naissance il était juif et qu'il est un père Cohen, il est Cohen.
Il est Cohen.
Une convertie, si, il faut qu'il naisse, encore une fois. Si y a un homme qui est Cohen, qui se marie avec une femme convertie, mais elle est déjà convertie.
Elle est déjà convertie.
Pas de problème, c'est fini, elle est juive.
Ah, d'accord.
D'accord.
Ils sont pas
Cohen.
Elle est quoi?
Les
gens sont Cohen. Pourquoi ils sont contre
là? Il y a deux avis là-dessus. Hein. Il y a deux avis.
Cohen Halal. Il est Cohen quand même.
Il est
inapte au service, mais il est Cohen.
Inapte au service. Rien d'être Cohen, j'en ai inapte au service.
Non, parce qu'il y a deux avis là-dessus.
Il ne peut même pas monter Richon.
S'il est une convertie?
Voilà, il n'y a rien.
Il y a deux avis là-dessus.
Il a plus son
frère. Il dit la génération d'après.
Bah, mais est-ce qu'un Cohen il peut se marier avec une convertie?
La génération d'après, il n'y a pas de problème.
Un Cohen il peut se marier avec une convertie, alors? Pas.
Non. Il y a deux avis.
Mais alors là.
Oui, mais s'il s'est marié.
S'il s'est marié, alors déjà il n'avait pas le droit. Mais ses enfants ne sont pas Cohen.
Avec une convertie. Il fallait divorcer, il n'avait pas le droit, mais une convertie, je ne savais pas.
Non, tu n'as pas compris.
La génération d'après, ça veut dire qu'on
remet en cause le rôle
de la
fille.
On met en cause
le rôle de la. Et un Cohen va épouser cette fille. Bah, cette fille, elle est devenue. Il y a eu une génération
pour le service.
Il n'a pas écouté ce que je viens de dire.
Donc, comme nous.
Bon, maintenant, finis le pastouk. Bézarkoub né Aaron à Kohanim, et Damo à la misbéar sa vie. Donc, les enfants de Aaron, les Kohanim, devront verser le sang à la misbéar sur l'autel, mis sa vie autour. Ça veut dire quoi, autour? Rashi explique, il dit, c'est ce qu'on appelle la technique de Shtematanot Shehen Arba. Ça veut dire qu'on prenait les deux coins, on prenait deux coins du Misbéar, et donc on versait du sang dans les deux coins, donc du coup on couvrait combien? On couvrait quatre coins. Donc on faisait deux, mais qui faisaient quatre. On est d'accord? Deux qui faisaient quatre, puisque celui-là il couvre là et là, et celui-là il couvre là et là. D'accord? Donc c'est Shtematanot Shehen Arba. Comme ça Rashi explique. Voilà, bon on va s'arrêter. Quelle heure il est? Ah, on va s'arrêter.